passé et l'avenir au secours du présent.
Le beau est toujours bizarre.
Non, je n'y crois pas.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
Le bizarre est souvent beau.
C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
Le beau bizarre.
Non, oui, pour moi, oui.
De Zineb Souleymane.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui accepte volontiers de fermer les yeux pour mieux entendre.
Ferme les yeux. Je vais me mettre comme ça. Alors au premier plan, je vois des gens qui passent. C'est des spectatrices. Je crois qu'il y en a une qui est un petit peu maquillée. Et puis derrière, je vois des grandes lignes, des grandes vitres, et puis un château. Il y a du soleil. Là, il y a une autre personne qui passe. Et en périphérie, sur les côtés, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Mais en fait, en face de moi, il n'y a que le château. Et ça me donne hyper envie d'aller dehors, me poser dans l'herbe au soleil.
Pour cet épisode, nous sommes à Angers, précisément dans l'espace forum du quai, qui s'est transformé en agora pour accueillir un projet particulier.
J'ai d'accord de vous offrir une danse. C'est une danse qui serait un peu comme un secret. Moi, j'ai envie de vous raconter quelque chose, mais de vous le raconter plutôt avec la danse qu'avec les mots, si vous êtes OK.
Ça va ?
Ça vous dit ? OK. Ben, vous pouvez rester là, alors. Et moi, je vais choisir l'espace où j'ai envie de vous raconter ce secret. Et puis, je vous retrouve après. OK, c'est très mystérieux.
L'accueil du public se fait en douceur. Ici, un performeur participe à mieux appréhender l'espace. Ailleurs, c'est une interprète qui offre une danse secrète. Plus loin, un stand de maquillage camouflage pour rejoindre la communauté. Au coin, c'est un stand de ressources que l'on croise. Et à l'opposé, c'est un stand d'une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et tout autour, ce sont des feutres qui se sont posés pour se blottir en cercle et assister à la performance plus tard.
Voilà, donc cet espace est donc l'espace de la performance, et ça c'est aussi les... Enfin, vous pourrez vous installer après là où vous voulez, comme vous voulez, y compris sur les feutres peints.
Ah ouais,
donc là, ici, on est près de ce qu'on appelle le pôle maquillage, où on peut se maquiller, se faire maquiller ou proposer à quelqu'un d'être maquillé. Et ces maquillages, ils viennent de... Ils ont beaucoup évolué, mais à l'origine, dans le travail, dans le début de la pièce, c'était inspiré du dazzle, qui est une technique de maquillage qui a été développée pour aveugler les caméras de surveillance. Voilà, donc après, esthétiquement, ça s'en est beaucoup décalé.
Ouais.
Mais ça restait important pour les performeurs d'avoir à la fois une marque sur le visage et aussi de garder la trace de cette recherche autour du dazzle. Donc ça, c'est un premier pôle.
Oui.
On fait partie de la même tribu.
C'est ça.
Ton tour ?
Ce projet hybride a pour titre « Outsider » et il est porté par la chorégraphe Julie Nioche à l'invitation du CNDC d'Angers, dirigé par le chorégraphe Noué Soulier. Julie Nioche a réuni autour d'elle 9 interprètes et une DJ en invitant un formateur en violences sexistes et sexuelles, Lex Fratini, pour hybrider les pratiques et co-construire une partition qui dépasse la seule danse sur scène.
Vers ces feutres, Isabelle.
Ces feutres, donc, ce sont des grands feutres qui sont de la scénographe Alice.
Mm-hmm.
Donc ce sont des êtres un peu hybrides qui sont dans des états, indéfinissables.
Mm-hmm.
Et voilà, l'idée des feutres, c'était à la fois que ça puisse être protecteur et accueillant.
Mm-hmm.
Et aussi, ces peintures, ces figures, pour Alice, c'est un peu les traces imaginaires des sujets de la pièce, mm-hmm. et de la façon dont on a travaillé sur la performance. Hein.
Mm-hmm.
Voilà, donc c'est un peu des traces de ces fantasmes, de ces mémoires, de ces souvenirs. Voilà. et avec lesquels voilà, vous pouvez jouer, marcher dessus, vous recouvrir.
Comment mettre au travail par le corps la question des violences sexistes et sexuelles ? Est-ce que la danse peut s'envisager comme pratique d'autodéfense ? Que faire de la mémoire potentiellement traumatique de ce corps ? Est-ce une danse pour soi ou une danse à partager ? Et comment la regarder ?
Ici, on accueille, pour chaque fois qu'on joue dans une ville, on accueille une ou des associations locales qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles et qui proposent de l'écoute. Donc là, c'est le planning familial principalement, qui est là avec de nombreuses bénévoles qui sont là pour voilà, renseigner, informer, donner des ressources pour les gens d'ici et éventuellement proposer de l'écoute quand c'est pour les personnes qui souhaitent profiter de ce moment pour ça.
Oui, c'est bien ça.
Pour traverser ces questions et bien d'autres, j'ai voulu inviter à mon micro celle qui a orchestré en un temps record ce projet qui dépasse ce qui se passe sur scène. Pour parler d'outsider, Julie Nioche est mon invitée dans ce 65e épisode du Beau Bizarre. Bonjour Julie Nioche, merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre. Vous êtes danseuse, chorégraphe et ostéopathe. Vous avez créé votre compagnie en 2007 et vous l'avez intitulée M pour Association d'individus en mouvement engagé. Et on va tout de suite entendre la voix d'une personne qui était là à ce moment-là et qui est toujours là à vos côtés.
Alors, mon rôle dans l'association d'individus en mouvement engagé, donc M, qui porte le travail de la chorégraphe Julie Nioche. Mon rôle, c'est d'abord un rôle de cofondatrice, puisque j'étais là dès le début, en 2007, et que c'est une structure qu'on a fondée, à la fois, en effet, comme une compagnie de danse portant les travaux de Julie Nioche en tant que chorégraphe, mais aussi comme une structure qui porterait des projets collectifs socialement engagé et qui le ferait à partir d'une pensée collective et politique finalement de ce que la danse peut faire dans le champ social. Et cette préoccupation sociale, elle affecte aussi la façon dont on a construit la structure et dont on prend soin depuis toutes ces années. Et au-delà de ce moment de fondement, c'est difficile de me définir un rôle spécifique parce que d'une certaine façon, je pense qu'on a tous et toutes plusieurs rôles à la fois dans cette association. Je dirais que moi, je suis plus particulièrement engagée dans les projets qui concernent la place de la danse et du corps et des pratiques corporelles dans, disons, l'engagement social et la lutte contre les discriminations. Et moi, je le fais de façon plus spécifique à partir de ma place de chercheuse en danse et de praticienne somatique, donc de praticienne de la méthode Feldenkrais. Donc cette place, c'est essentiellement d'activer ce qu'on appelle la pensée critique, de réfléchir sur les pratiques, de réfléchir sur les relations entre danseurs professionnels, danseurs non professionnels, publics et établissements de soins, par exemple. Mais je ne dirais pas pour autant que je suis la seule chercheuse de l'association, puisque, comme je le disais, tous les membres d'une certaine façon sont impliqués autour de la danse comme facteur d'émancipation et dans une démarche artistique qui est toujours une démarche de recherche-création.
La voix d'Isabelle Gineau pour ouvrir déjà au collectif dans votre travail, mais est-ce que vous pourriez revenir sur le sens du nom de votre compagnie et le projet que vous aviez envie d'initier derrière cette appellation ?
Pour moi, c'était important de parler d'association et pas de compagnie. Donc, c'est pas la compagnie M, c'est M. Et j'aime bien cette direction assez pointée sur le fait qu'on ait des groupes qui vont être assez éphémères, de projet en projet. On s'associe pour faire tel ou tel projet. Il n'y a pas une compagnie permanente, en fait. C'est des personnes qui vont passer par M pour un projet, deux projets, trois projets, 20 projets. Il y a beaucoup de fidélité, mais il y a aussi la notion de passage pour y expérimenter des choses, y apprendre des choses aussi. Parce qu'on a une certaine expérimentation maintenant et dans la création avec un souci de soins sur la structure et comment on est dans les relations, et puis aussi une expérimentation de terrain sur les projets artistiques corporellement et socialement engagés. Donc on est toujours en recherche, donc on n'a pas abouti sur tout, mais je crois qu'on a développé quelques méthodologies de travail qu'on a pour nous très envie d'être partageables. Et donc, association d'individus en mouvement engagé, pour moi, c'est important. Je pense que ça se transmet dans ma façon de me mettre en relation avec les équipes artistiques, techniques, administratives, de façon à ce que chaque individu puisse développer sa propre créativité. Comme j'imagine la danse comme facteur d'émancipation, j'imagine que le travail de création l'est aussi. Et ça va être des individus qui vont s'investir. Donc il y a, oui, le collectif, mais il y a aussi l'individu dans le collectif. C'est aussi important dans un sens que dans un autre. Et le mouvement, évidemment, est important dans le fait que moi, je viens du champ de la danse, je suis danseuse, ma formation, c'est vraiment à partir de la danse. Donc la mise en mouvement est quelque chose qui me parle énormément et que je crois que même dans mon deuxième métier, qui serait celui d'ostéopathe, c'est aussi une remise en mouvement. La question de la remise en mouvement ou de la mise en mouvement tout court, elle peut être perçue dans le corps, mais aussi dans les pensées, dans les systèmes de pensée, dans les systèmes tout court. Comment on remet du mouvement ? Et engagée, parce que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que danseuse, dans l'espace de la société ? Et quel serait mon rôle possible pour y participer dans plutôt quelque chose qui va amener les gens à se mettre en mouvement. Et puis j'aimais bien M, parce que c'est juste joli, en fait, aussi, et important, cette notion d'amour. Et surtout que c'est M, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'action. C'est pas aimer ou aimons.
Alors, il est toujours difficile de définir un travail ou de le situer quand je n'ai pas vu d'autres pièces de l'artiste invité. Voilà pourquoi il m'a semblé important de m'appuyer encore une fois sur la voix de votre complice Isabelle Gineau pour introduire la suite.
Le travail de Julie Nioche, en général, j'aimerais mieux ne pas devoir le qualifier parce qu'il me semble que ce qui le caractérise, c'est sa complexité et sa diversité. La question du travail chorégraphique n'est pas séparable de son travail de recherche, de son travail sur le corps, de son travail d'engagement social, de son travail de pédagogue ou de formatrice. Donc cette complexité, elle est vraiment importante à respecter et à faire entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus de création qui se répète, il n'y a que des processus qui se condensent autour d'une question, et cette question, elle est toujours complexe, elle est toujours enchevêtrée avec plusieurs questions en même temps. Donc voilà, c'est difficile de le définir. En tout cas, peut-être que ce qu'on peut en dire, c'est que la question du corps et de la danse et de la sensation y est toujours extrêmement important, qu'il est, je dirais, très intense, y compris dans ces moments d'une danse qui cherche plus de détente, à être plus inclusive à une diversité de corps. Il est aussi, quoique très engagé corporellement et physiquement, il est aussi extrêmement puissant en termes d'intelligence et d'exigence politique et théorique, donc fondamentalement engagé et fondamentalement un travail de recherche et d'expérimentation. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de superlatifs, mais il me semble que c'est important de lutter contre la nécessité de plus en plus pressante de définir en quelques mots et de façon simplificatrice le travail des artistes. Je pense qu'une des choses importantes dans le travail des artistes en général et celui de Julie en particulier, c'est précisément de résister à cette simplification et à cette tendance à réduire et à renoncer à la complexité. Donc voilà, je pense que c'est important de s'y tenir.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans sa manière de regarder votre travail ?
Oui, oui, complètement. On en parle beaucoup. On se pose la question de comment on continue, en fait, à parler de ces liens entre la puissance des pratiques corporelles, donc on peut appeler les pratiques somatiques, et la puissance politique qu'elles ont quand elles sont vraiment dirigées vers une autonomisation, un outillage, et puis un agrandissement, on va dire une valorisation des imaginaires, des sensations, et donc de développer un pouvoir de création. Ces puissances là dans la société d'aujourd'hui, elles me paraissent importantes et on en discute beaucoup, et que la complexité elle a toujours été importante pour moi parce que j'ai toujours mélangé plusieurs pratiques plusieurs points de vue. Ça me plaît quand il y a une sorte de ramification, parce qu'en fait, on est tous et toutes des êtres extrêmement complexes, avec des histoires, avec des héritages, avec des fantasmes, avec des obligations, avec des révolutions, avec des impositions, des batailles, et qui bougent, surtout quand on travaille dessus, avec aussi tout un monde qui est en transformation en permanence, qui va de plus en plus vite. Donc, ça me paraît important, oui, que la pratique artistique, pour moi, elle soit dans cette subtilité-là de la complexité, pas pour se faire plaisir à être complexe, parce que des fois, il y a besoin d'être très direct et de pouvoir exprimer une sensation, une émotion, et ça sort via un geste, via un regard, via un chant. Et que du coup, c'est aussi tous les entours, en fait, qui vont faire que c'est pas juste ce chant, juste ce geste. Et comment on prépare le regard, où est-ce qu'on décide de faire cette pièce, avec quels moyens, quel processus, et que tous les étages vont construire. Moi, j'y crois beaucoup, que chaque étage de la création d'un projet va pas donner le même résultat si on fait attention à l'ensemble des étapes. Et surtout, ça construit du relationnel qui va faire grandir aussi les êtres qui sont rentrés dans ce tourbillon à un moment donné pour un instant plus ou moins long. Et que ça, c'est vraiment très, très beau à voir. Moi, ma pratique artistique, elle me paraît être importante, et je trouve qu'on bataille de plus en plus, les artistes, à avoir des espaces de création d'objets pas normés, d'objets qui vont questionner ces normes, qui vont déranger, d'avoir du temps pour ça, d'avoir des espaces protégés pour qu'il y ait des tentatives qui se consolident pour pouvoir après aller se confronter à d'autres espaces que celui plus protégé du studio. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est très fragilisé par un contexte et un système qui le dénigre un petit peu, qui pense que c'est pas trop important. Or, je pense que c'est vraiment des espaces qui sont de plus en plus demandés, aussi parce que c'est peut-être dans ces endroits où il y a des imaginaires qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant qui vont pouvoir émerger pour te donner des idées qui vont devoir après demander énormément de temps pour construire quelque chose d'autre, de nouveau, dans les relations en elles-mêmes, mais aussi dans les formes, dans la façon dont on va se retrouver, se parler, imaginer les villes de demain, imaginer les écoles de demain, imaginer comment on prend soin de nos corps demain, les soins de notre environnement. En fait, pour moi, c'est un peu à ça dont j'ai envie de participer. Donc, ça demande du temps, dans un temps qui est complètement différent du temps au quotidien. Et en même temps, ce qui me plaît, c'est quand ce temps-là, cette poésie-là, cet acharnement presque, on pourrait dire, de faire étirer les muscles, assouplir les articulations, donner des lignes, projeter le regard comme si, la voix comme ça, va rencontrer en fait le quotidien. Et va rencontrer la poésie des gens qui, eux-mêmes, sont en train de la développer en faisant leur jardin, en faisant je sais pas quoi. Enfin, en fait, il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a pas de sensibilité et de poésie autour de nous.
Je crois en tout cas que vous portez aussi une attention particulière au contexte dans lequel vos créations se déploient. Vous cherchez d'ailleurs de plus en plus à sortir des boîtes noires des théâtres. Aujourd'hui, nous nous rencontrons à Angers, invité par le CNDC, pour créer votre nouvelle pièce Outsider. Avant de revenir en détail sur ce nouveau projet, j'aimerais savoir comment est née la toute première envie autour de ce projet, ou peut-être pour poser la question autrement, comment naît le désir d'une nouvelle création ?
Je pense que ça dépend. Il y a plusieurs moyens. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas toujours le même chemin. Et c'est important, encore une fois, c'est complexe. Il y a des moments où j'ai vraiment des images très très claires, après qui vont me demander beaucoup de travail pour que cette image devienne une pièce, mais c'est donc absolument insuffisant. Il y a beaucoup d'intuition, et puis des fois c'est des choses qui montent petit à petit. Je crois que je travaille beaucoup avec l'incompréhension, c'est-à-dire quand je ne comprends pas, et que là mon cerveau va commencer à se mettre en route pour essayer de comprendre une énigme. Donc il va y avoir les rêves, il va y avoir les associations d'idées, il va y avoir une lecture qui va faire penser à un truc, qui va faire penser à un autre truc, et que tout d'un coup, toutes les pièces du puzzle vont donner un propos cohérent pour monter un projet dans lequel moi je vais pouvoir comprendre le processus ou comprendre la forme, et donc je vais devoir inventer le processus, ou je vais avoir le processus, et puis la forme va découler de ce processus. J'ai pas du tout toujours les mêmes méthodologies de travail. Et j'ai besoin de ces changements. Donc ça, c'est quand c'est moi qui mets en place un projet. Puis il y a aussi des fois des demandes, des commandes ou des invitations plutôt. Et là, ça va être encore une autre façon de fonctionner. En tout cas, j'ai toujours besoin d'alimenter avec des questions qui me sont importantes, en fait. cette notion de résolution de problème, moi, me parle énormément. Ça ne veut pas dire que je vais avoir une réponse. Je sais très bien d'ailleurs que je ne vais pas en avoir. Mais au moins, j'aurai une expérimentation qui me fera creuser. Il y a beaucoup pour moi de travail autour de la lecture, d'écouter d'autres gens qui parlent du même sujet que moi, d'aller me ressourcer avec d'autres artistes, mais aussi d'autres champs sociologiques, philosophiques, psychanalytiques, anthropologiques. Ça a toujours été très, très présent chez moi, de sortir en fait de cet espace de la danse. Et du coup, la notion de composition, elle dépasse en fait pour moi le champ de l'écriture chorégraphique. Donc l'arrivée d'un désir de création, il se fait aussi parce que justement, il y a des espaces de vide en fait, de latence, qu'il faut se créer, qu'il faut vraiment lutter pour en créer. Et puis il y a aussi la vie de tous les jours, au contraire, le quotidien, des choses qui se répètent et qui à un moment donné, je me dis non mais je peux pas laisser passer en fait cette répétition là. Il y a quelque chose qui me meut, qui me met en colère ou avec lequel je ça me pose question. Et là avec Outsider, c'est un peu ça, c'est en même temps se rendre compte que dans le processus personnel, bah, c'est des questions évidemment très présentes, les violences sexuelles et sexistes, de se redire où est-ce que ça a été présent dans sa propre vie, et puis de voir comment ça résonne avec d'autres personnes qui se posent les mêmes questions à ce moment-là. Et qu'est-ce que, encore une fois, qu'est-ce que peut la danse, qui fait partie d'une de mes questions de base en fait.
Sur cette question précisément du désir d'une nouvelle création, enfin, on va entendre la réponse d'Isabelle à ce sujet.
Chaque projet de création de Julie part d'une question, et à vrai dire de plusieurs questions, qui sont ce qu'on pourrait appeler des questions de recherche, et pour laquelle il faut inventer un processus de création, une méthode, des pratiques corporelles, s'interroger sur la pertinence des cadres conventionnels du spectacle et des relations avec le public. Donc d'une certaine façon, il n'y a pas de processus qui se répète dans les créations de Julie, et parmi les constantes à travers ce renouvellement, cette question du partage avec les spectateurs est vraiment une obsession, dans le sens où elle ne cesse de se reposer la question: comment faire pour que les spectateurs sentent quelque chose de la danse? Donc chaque pièce, d'une certaine façon, essaye d'inventer une façon différente de répondre à cette question, de partager le sentir. Et en ce qui concerne Outsider, la création en cours, il me semble que la question principale, c'est que pouvons-nous faire avec la danse, et nous en tant que danseurs et danseuses, pour soutenir les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est une question évidemment bien plus large que la pièce, et la pièce c'est, disons, la façon dont on essaye d'y répondre. Pour y répondre, dans un premier temps, Julie a commencé par inviter un formateur sur la prévention des VSS, qui a intégré le groupe, et donc le processus de création a commencé par une formation commune autour de ces questions. Et donc le processus et les pratiques et la façon dont la pièce s'est construite à partir de cet échange, où on pourrait dire aussi une sorte de troc, où les pratiques élémentaires d'autodéfense, de prendre conscience de ses sensations, de respecter certains protocoles d'écoute, autant de questions qui sont en fait assez communes entre la prévention des VSS, le travail des militants et les pratiques de la danse. Donc c'est une forme de troc, on pourrait dire, entre ces deux champs, et la pièce est construite à partir de ça. Alors, en quoi c'est une étape différente par rapport à son parcours? Il me semble que c'est la première fois qu'elle laisse vraiment des pratiques sociales et sociétales entrer dans le processus de création. Et il me semble que c'est un tournant aussi, parce que le fait d'avoir ainsi, de s'être formé ensemble à ces pratiques d'écoute et ces pratiques d'entraide, ça, il me semble amener le sens du collectif dans un endroit différent. Et c'est quelque chose qui est très puissant et fort dans ce collectif de la pièce Outsider, c'est vraiment à la fois le soin du collectif et la façon dont ce collectif prend soin du projet. Et il me semble que c'est vraiment la première fois qu'on voit une création littéralement émerger de ce qu'on pourrait appeler des savoirs de l'entraide.
Isabelle Gino revient ici à la fois sur le point de départ de chacune de vos créations, mais aussi la genèse du projet Outsider, votre dernière création. Il y a beaucoup de choses dans ce que dit là Isabelle Gino, votre collaboratrice fidèle. Mais d'abord, le point de départ, vous avez donc mis au travail la question des violences sexuelles et sexistes que les femmes et les personnes s'identifiant comme femmes subissent quotidiennement. Et vous avez réuni autour de vous 9 interprètes et une DJ pour porter une lutte singulière et sensible par le corps. Comment vous avez cherché avec et par le corps justement à formuler cette réponse ?
En fait, l'idée c'était de faire un laboratoire avec Lex Frattini qui lui apportait des savoirs théoriques et aussi de la pratique, parce qu'il y a la pratique de l'écoute, ça se pratique. Lex qui est le formateur, donc Lex Frattini qui est le formateur avec qui on s'est formé sur la prévention et les violences sexuelles et sexistes de façon aussi historique et puis chiffrée, enfin voilà, plein d'informations, mais aussi des pratiques pour pouvoir y être vigilant, savoir y réagir différemment. Donc il y a de la pratique dans ces formations. En tout cas, Lex, lui, en développe pas mal. Il est aussi beaucoup dans la pratique corporelle. Moi, je me posais plusieurs questions. C'était aussi comment on peut prendre soin, finalement, de ces militants qui font des choses complètement incroyables. Et comment, avec nos pratiques de corps, on pourrait soutenir, en fait, le corps des militants. Comment prendre soin du corps des militants ? Mais je ne peux pas tout faire dans une seule pièce. Donc ça, c'est peut-être sur la prochaine création. C'est un peu le point de départ, je pense. Du coup, ces pratiques corporelles, elles venaient prolonger ou développer les pratiques et les points théoriques que Lex nous transmettait. Donc c'était un laboratoire où on se mettait d'accord avec Lex. Ah bah, je me disais, je vais aborder ça. Je lui dis, bah, moi, j'aimerais, pour cette question-là, faire cette proposition de pratique improvisée. Moi, je travaille beaucoup avec l'improvisation. Donc, on a mélangé nos pratiques, tout simplement, puis on a discuté ensemble de qu'est-ce que ça fait d'avoir cette information, et puis après, d'improviser. Ou d'improviser, et puis après, d'avoir cette information. Et ça, cette question de la relation entre la pratique et la théorie, c'est quelque chose que je travaille depuis plus de 20 ans avec Isabelle Gino, où on va vraiment se poser la question, qu'est-ce que ça change dans la compréhension de quelque chose quand ça passe par le corps ? De façon un peu littérale. Est-ce que c'est pareil si j'écoute quelqu'un me parler quand en même temps je me masse les pieds ou je suis allongée, je ferme les yeux ou je suis assise au bureau et j'écris ? C'est quoi la notion d'écoute en fait ? Qu'est-ce que je retiens quand je le retiens peut-être plus en bougeant ? Et je pense que c'est des questions qui sont traitées de façon très différente. Par exemple, l'apprentissage en mouvement, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus présent dans la notion de transmission. Moi, c'est très, très clair que pour apprendre, il faut que je bouge et que j'ai une... je ne suis pas la seule. Et c'est intéressant de voir à quel point on empêche le corps, finalement, très souvent de bouger. Ça ne se fait pas. C'est signe de déconcentration, alors que ce n'est peut-être pas tellement la réalité pour beaucoup, beaucoup de gens. Tout ça pour dire que voilà comment commence l'assimilation en fait corporellement de théorie. Puis surtout, faut pas oublier que dans ce processus, ben on a tous été visiter nos propres histoires de violence. Et ça, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que il fallait construire aussi une équipe pour qui c'était ok et vraiment ok de le faire personnellement. Et puis en sous-groupe, on l'a pas fait collectivement. Tout le monde n'est pas au courant de tout, évidemment, et surtout pas. Mais on sait tous, par contre, qu'on a été visiter nos propres histoires intime vis-à-vis de ces violences-là. Donc ça remue énormément et je crois que je suis aussi toujours très attirée par le fait de travailler à partir de l'intimité. Ça ne veut pas dire que c'est celle-là qu'on va raconter, mais on ne peut pas y échapper. Parce que ces questions-là, si on se les pose à soi-même, bah, ça va aller ouvrir des portes que l'on connaît, mais aussi des portes qu'on n'avait pas encore ouvertes. Et c'est aussi tous ces outils-là qui sont et les outils d'écoute et autres outils de réparation. Et puis comment la danse peut être un de ces outils-là. Et puis pour s'émanciper, après s'être réparé. Et j'y crois beaucoup parce que je la pratique depuis très très longtemps. Et que je sais que ça fait ça pour moi. Et que je ne suis pas la seule à qui ça fait ça. Et du coup, ça m'intéresse de chercher en fait qu'est-ce qui se passe. C'est quoi vraiment le travail en fait autour de ces pratiques-là. Sans être dans une thérapie, sans être dans une danse-thérapie. Mais où est-ce que ça œuvre dans une compréhension qui se fait de façon très personnelle, mais aussi collective. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui se passent parce que c'est collectif et que le groupe va porter quelque chose qui te dépasse et que tu ne pourrais pas faire seul ce chemin-là. Et c'est tout ça qu'on a un peu expérimenté pour soi, pour nous, et qu'on essaye de faire... de partager dans Outsider.
Est-ce que la danse peut s'envisager comme une pratique d'autodéfense et dit autrement, que peut la danse pour revenir à votre fil rouge du coup ?
C'était un peu le sous-titre pour moi d'Outsider, et ça l'est, hein, c'est pour une danse de réparation, la danse comme réparation et pratique d'autodéfense, oui. Pour moi, c'est très clair que la danse est une pratique d'autodéfense. Et je l'ai nommée depuis très longtemps pour moi-même, parce que j'avais... Ça vient d'une autre recherche que j'avais faite, parce que j'ai fait des études en ostéopathie, j'ai été ostéopathe en cabinet très peu de temps, parce que c'est pas hyper compatible avec ma pratique de danseuse et de chorégraphe. Mais par contre, j'avais fait tout un travail de recherche en allant rencontrer un maître de Kalari Payat, qui est un maître d'art martial indien, qui pour être maître, on doit être combattant, mais aussi soignant. On doit savoir soigner les blessures que l'on procure en tant que combattant. Et je trouve cette philosophie très intéressante. Donc j'ai été le voir en me posant la question de comment lui il fait le lien entre le fait de faire son art et de soigner. C'est quoi le lien qu'il fait ? Et la réponse m'a été, j'ai mis plusieurs années à comprendre, mais il me disait, enfin ce que ça me disait, c'était que finalement l'art martial, c'est très clair que c'est un art de combat. Donc c'est très clair que cet art-là combat un combattant. Et c'est ce qu'il fait aussi quand il soigne. Il combat une blessure, un virus, une bactérie. Donc il y a une sorte de combat aussi dans le soin. Il dit, du coup, en fait, c'est la même chose. On combat quelque chose. Et je me suis dit, mais ça, déployer ou renverser vers la danse, ça marche. C'est-à-dire que finalement, en dansant, je combats. Je combats sur le corps normé. Je combats pour avoir des espaces de poésie, des espaces sensibles, des espaces d'expression qui ne passent pas forcément par un discours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de parole, mais ce n'est pas les mêmes portes d'entrée de relations. Donc en fait, pour moi, la pratique de danse est un endroit où je combats par cette pratique d'autres modalités en fait, relationnelles avec les gens, mais aussi avec l'environnement et avec l'imaginaire et la sensation. Et de remettre au cœur aussi de nos vies la place de ce corps, c'est pas rien en fait. Là, c'est dit très simplement, mais je sais que c'est un enjeu politique très fort. Donc la danse comme autodéfense, je sais très bien que moi dans ma vie, le fait d'avoir pu danser depuis toujours, j'ai pu me défendre de réalités sociales, systémiques, dans lesquelles je suis embarquée comme à peu près tout le monde. Je n'ai pas les mêmes que tous les autres, parce qu'on a chacun nos réalités et qui sont extrêmement différentes. C'est très difficile de se projeter dans la réalité de quelqu'un d'autre. Par contre, on en subit tous, ça c'est sûr et certain. Et donc du coup, comment on se défend de ça ? Et je pense que pour moi, c'était très clair que la danse a été un espace où je me défendais de ça, en fait, et où ça m'a permis de supporter, quelque part. Et ça continue encore aujourd'hui.
Je suis ceinture noire de judo, ceinture noire d'aïkido et ceinture noire de kung-fu. Et je suis également professeure de yoga. Et j'ai eu ma ceinture noire de judo à 68 ans, puisqu'il faut 5 ans d'études avant d'être ceinture noire.
Mais surtout de la vigueur, hein.
Les cours commencent d'abord par un cours de gymnastique pour se mettre en train. Et ensuite, je leur enseigne la self-défense. La self-défense sont des mouvements que j'ai puisé un peu dans le kung-fu, dans le judo et dans l'aïkido. N'est-ce pas ? Parce que j'ai des personnes très âgées, là.
J'ai 66 ans et demi.
J'ai 71 ans.
J'ai 75 ans.
La self-défense est utile à tout le monde parce qu'on peut être attaqué à n'importe quel âge. Donc il faut pouvoir se défendre.
Je me suis beaucoup intéressée au Black Panther Party for Self-Défense, qui a évidemment, dont on connaît l'image avec le fusil, l'armement et la lutte radicale contre l'État raciste, mais qui avait aussi mené une grande réflexion sur la pratique du kung-fu et sur la philosophie, puisque par exemple c'était de l'ordre aussi de l'autodéfense, non seulement d'avoir des formes d'ascèse martiale, donc d'entraînement, puisque effectivement on pourrait considérer que les pratiques de combat ne sont pas spécialement pour être prêtes à se défendre contre un agresseur, enfin là-dessus il y aurait beaucoup à dire, mais surtout dans une forme d'ascèse finalement, mais que la lecture de la philosophie, la pratique de la philosophie de la même façon participe d'une ascèse de soi en fait, enfin d'une éthique de soi, c'est une façon de se former et dans les deux cas en fait c'est une formation, c'est une façon d'advenir.
Un montage avec une archive sur l'autodéfense où l'on entend Jeanne Liberman, trois fois ceinture noire, suivie de la voix d'Elsa Dorlan, qui a signé l'essai « Se défendre, une philosophie sur la violence » pour introduire la question « Comment les apports en sciences sociales viennent nourrir votre travail d'abord ?»
Je lis beaucoup et j'écoute beaucoup, je dirais ça. Et je pense aussi que les temps de recherche avec Isabelle et aussi le séminaire avec d'autres personnes, d'autres rencontres, c'est un peu un training en fait, on pourrait dire aussi. Je crois que c'est un training comme un autre parce que c'est pour moi pas du tout dissocié en fait. La notion de training physique, psychique, émotionnel, je vois pas trop la différence. Parce qu'on hérite quand même très très fort d'une séparation de ça. C'est très difficile de de penser autrement. Et même dans notre langage, on se retrouve avec une séparation, même là, avec les extraits, finalement, self-défense, paf, on se retrouve dans quelque chose de très physique et très technique, on va dire. Et ce que j'ai pu, moi, en tout cas, ressentir dans la petite mini-formation de self-défense, enfin, d'autodéfense féministe que j'ai pu recevoir, qui m'a donné envie d'en faire davantage, et que j'ai aussi beaucoup ressenti dans la formation avec Lex sur les VSS, c'est que ça se passe certainement pas que dans la capacité de pouvoir faire tel ou tel geste. Ou justement, ça met en valeur le fait que le geste, pour qu'il advienne, il doit être porté par un certain imaginaire, un certain état d'esprit. Alors oui, on peut développer des muscles qui vont nous permettre de quand même sacrément bien nous défendre, et c'est tant mieux. Mais finalement, ce que j'entends aussi avec ces corps vieillissants, ça va être de se rendre compte, en fait, de ce qui se passe autour de soi et de comment nous, on se positionne par rapport à ça, et où est-ce qu'on met ses propres limites et comment on les exprime. Et ça, c'est un travail qui demande énormément de temps, et puis d'être surtout à l'écoute de ses sensations, qui pour moi est le point de départ aussi de mon intérêt vis-à-vis de ces pratiques militantes, c'est qu'on finalement, on essaye de mettre en valeur cette écoute de ses sensations comme une base extrêmement importante pour connaître ses propres limites et puis les faire respecter. C'est des étapes, tout ça. Et en danse, en tout cas, moi, ma pratique de la danse, elle est vraiment à partir de ses propres sensations pour pouvoir faire confiance à l'imaginaire qu'elles vont générer, ces sensations, et de mise en mouvement. C'est la même base, c'est cette notion d'écouter ses sensations. Et c'est peut-être plus sur l'écoute de ses sensations que j'ai envie de dire qu'il y a un point commun sur la danse et l'autodéfense, plus que sur le côté, on va dire, martial, bien que ça aide d'avoir conscience de ses appuis, pour pouvoir appuyer sa pensée, évidemment. Quelqu'un qui va parler, qui va être centré sur sa colonne d'air, après on va être voilà, hyper technique, mais l'un n'est pas dissociable de l'autre, et des fois on travaille plus par un bout et puis par l'autre, puis il y a des moments d'association. Et je trouve ça extrêmement beau et très émouvant de comprendre que ça suffit pas en fait d'être coordonné dans le geste, que ça influence en tout cas à mon avis beaucoup la coordination de nos pensées. Et de défaire, comment on défait nos autoroutes de pensée et nos autoroutes de réaction à quelque chose qui nous arrive. Et c'est ce qui se passe souvent quand on se retrouve toujours dans la même situation, particulièrement quand on dit oui, par exemple, alors qu'on aurait voulu dire non. Et ça peut être face à des violences sexuelles, mais finalement, on le vit dans beaucoup de contextes, même professionnels, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la notion de sexisme ou de violence sexuelle. Il y a plein de choses qu'on accepte, qu'on n'aurait peut-être pas dû accepter. Et c'est comment on va se mettre en route pour aussi déjouer, en fait, cette autoroute de « ah bah, je vais dire oui ». Et ça, ça se fait évidemment par des pratiques probablement physique, mais aussi probablement d'analyse de la situation et de penser, de s'autoriser aussi. Cette notion d'autorisation, elle est énorme dans tous ces sujets.
Mais comment travailler avec un corps qui n'oublie pas ce qu'il a traversé, qui a une mémoire potentiellement de trauma, mais qui a besoin de peut-être les retraverser pour pouvoir les extraire, enfin, je ne sais pas, comment vous avez justement concrètement, travaillant avec les mémoires de chacun, chacune, sans en faire un sujet, en faire peut-être une force ?
Je n'ai pas de réponse, parce que je crois que ça, c'est très personnel à chacun, chacune. Il y en a qui vont probablement éviter, et c'est peut-être la meilleure solution. Il y en a d'autres qui ont plutôt envie et besoin de revivre, et c'est peut-être la meilleure solution, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que là, justement, peut-être là, la notion de mise en mouvement et de traversée peut permettre d'aller jusqu'à en faire une force. Et c'est ça que on essaye aussi de donner à voir ensemble, c'est comment de se rendre compte de ce qu'on a pu faire à tel moment, comment on peut essayer de faire autrement et comment on se reconstruit. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. La plupart des temps, les personnes se reconstruisent. Parce que si on ne se reconstruisait pas face à une violence, il n'y aurait pas beaucoup de monde construit, en fait, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement beaucoup à être sujet à avoir traversé ces violences. En fait, on voit bien plutôt des gens plutôt construits. Donc, ça se fait. C'est plutôt comment ça se fait avec plus de conscience, plus de partage pour que ça devienne une force et que ce ne soit pas juste toi tout seul dans ton coin qui a fait ton truc avec des trucs un peu bancals, plus ou moins bancals. Mais en vrai, la plupart des gens sont reconstruits, enfin, déjà. Donc, c'est plutôt comment on le donne à voir et on arrête de le minimiser parce que c'est une force, c'est déjà là, en fait. Et c'est le collectif qui va nous permettre de dire, bah ouais, en fait, et puis s'il y en a une ou un, parce qu'on parle des femmes, mais en fait, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier les hommes face à ces violences-là, parce qu'il y en a aussi beaucoup, malheureusement, qu'en subissent, qui n'y arrivent pas, sur un certain moment, de se défendre, de mettre une limite, Et ben, comment on aide, en fait, comment on soutient à un moment pour que ça devienne possible à un autre moment pour cette même personne, et que c'est en le partageant. Mais comme il y a tellement de silence sur tout ça, ben, on se retrouve très 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 souvent seul, et on a l'impression que c'est celui qui a subi la violence qui est le plus à l'écart, outsider. Et en fait, on se demande si c'est pas plutôt l'inverse. En fait, les outsiders, c'est ceux qui n'en ont pas subi. Et c'est toute cette question-là qui, moi, me paraît hallucinante. Et c'est cette force du silence qui est à essayer de renverser, qui va donner la force, mais c'est pas la donner, c'est finalement juste la révéler. Pour moi, c'est juste la mettre en lumière, la donner à voir. Elle est déjà là et elle peut évidemment être plus créative, trouver d'autres espaces. Et c'est en train de changer, enfin, c'est en train de se faire. Ça, la mise en mouvement, je la sens et je suis très contente de ça. Il y a encore du travail, mais c'est bien.
Je disais tout à l'heure que vous êtes aussi donc ostéopathe de formation, vous l'avez aussi reprécisé, ce qui confère peut-être à votre pratique une approche du soin, vous l'avez un peu signalé tout à l'heure, mais c'est une dimension que vous cherchez à irriguer dans votre propre pratique de création. Est-ce que dans vos protocoles, il est important pour vous de prendre soin des corps dansants, et comment ?
Ah bah oui, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on se fait pas mal. Donc ça permet d'aller plus loin. Enfin, je pense que moi, la pratique de soins, les pratiques somatiques, elles me permettent de faire mon corps aller plus loin, de perdurer plus longtemps. Et puis aussi l'imaginaire, d'alimenter l'imaginaire et donc du coup d'aller plus loin. Donc le soin, il est important et le soin, il est quotidien. Il est dans la pratique, puis il est aussi dans le soin relationnel. Enfin, il peut se trouver à plein d'endroits. Puis il y a des loupés aussi, comme normal dans la vie.
Laurent ?
Oui, bonjour.
Vous êtes Laurent, bonjour.
Bonjour. Oui, moi je suis danseur dans le projet, interprète, et je suis celui qui est responsable des maquillages.
Pourquoi le bleu ?
En fait, c'est tout simplement parce qu'on a travaillé sur le camouflage. Et donc, à un moment donné, il était clair et évident que le costume allait être du jeans. Et du coup, on a pris la décision comme ça que le bleu pouvait être la couleur qui pouvait permettre de faire réellement un camouflage entre les vêtements et la peau. Aussi, moi, j'ai une appétence pour cette couleur parce que je trouve qu'elle est douce. Franchement, c'est assez subjectif. C'était vraiment lié au jeans, quoi. Le jeans, c'est bleu. Du coup, on a choisi bleu.
Et pourquoi vous invitez les personnes à se maquiller avant le spectacle ?
L'idée ici, c'est avant de performer, de rencontrer les personnes, de pouvoir parler des sujets qu'on traite, de faire communauté. Donc c'est un geste qui est beau et important, en fait, presque, de se maquiller avant que quelque chose arrive. Ça crée du commun et ça nous paraissait super important par rapport au sujet qu'on traverse et à la forme qu'on propose.
Comment on décide pour tel ou tel projet que c'est ce nombre-là d'interprètes qui serait pertinent ?
D'abord, le nombre de personnes. Je savais qu'il fallait être nombreux. C'est pas simple aujourd'hui de faire un projet pour beaucoup de danseurs et de danseuses, d'un point de vue financier. Et on sait qu'après, c'est des projets lourds qui sont pas faciles à tourner. Mais pour moi, c'était une question d'abord qui était importante à aborder aujourd'hui. Moi, elle se pose pas que depuis aujourd'hui, mais là, de participer à ces questions-là à partir de la danse, et donc de qu'est-ce que peut la danse sur ces questions, et de l'aborder plus sur qu'est-ce que ça fait au corps, en fait, de traverser des violences, et comment une pratique comme la danse et d'autres comme le chant peuvent réparer et émanciper, et en tout cas renforcer la joie et la réparation. Ça me paraissait important face à beaucoup de discours, et qui sont très bien, et c'est heureusement. Mais je me dis, ah oui, il y a quand même une spécificité de la danse qui peut peut-être être intéressante à déployer. Et j'avais envie de faire ça plutôt dans l'espace public, parce que ça fait... Déjà, j'ai toujours été intéressée par le fait d'amener la danse dans d'autres espaces que celui du théâtre. J'adore le théâtre. C'est pas du tout une comparaison avec du plus ou du moins, mais c'est très différent. Comme ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire en tant que danseuse et artiste dans la société ? Il y a des fois, je me dis oui, peut-être c'est pas forcément être que dans les théâtres. Donc c'est pas nouveau pour moi d'aller en dehors du théâtre du tout. Je pense que je fais ça depuis plus de 20 ans, en vrai. Depuis toujours. Finalement, ça a toujours été en parallèle avec quelque chose qui nourrit l'un et l'autre. Et là, je me suis dit que c'était important, après toutes ces années aussi Covid, où finalement, j'ai fait beaucoup de choses dehors, parce que je n'ai pas du tout arrêté. J'ai eu besoin, moi, justement, de me confronter à la question, enfin, de continuer à développer cette question-là. Et là, ce sujet-là, je me disais, c'est des danses qui devraient être vues pas forcément que par des gens qui ont décidé de venir la voir, qui tombent dessus, qui soient surpris. Donc, j'avais envie d'être dans l'espace public. Et puis là, on a été invité par le CNDC, soutenu par eux. Et le festival est au mois de mars, donc on ne va pas faire ça dehors. C'est pas
possible, il fait trop froid, il peut pleuvoir. Et ils ont cet espace mi-intérieur, mi-extérieur qui est le forum, qui était parfait. Je suis très contente qu'ils aient aussi pris ce risque de faire ce genre de forme dans cet espace-là. Et donc ensemble, on a pu voilà, explorer ça et dans l'extérieur, pouvoir être entendu et voir quelque chose, il faut être un peu nombreux. Et j'avais besoin aussi d'avoir une diversité de personnalités qui portent cette question-là. Donc, 9, ça me paraissait bien. Et avec un DJ, une DJ, ça me paraissait bien. Et puis, c'est des, voilà, des collaborations qui sont soit de très longue date, soit plus courtes. Mais on est tous et toutes investis sur au moins 2 postes. La DJ, c'est l'administratrice de la compagnie. La chanson faite par Orion Soquet, il danse aussi dans la performance. Le maquillage fait par Laurent Seb, il danse dans la performance. Le flyer, il a été fabriqué au niveau du graphisme par une des danseuses, Aline Landreau, qui performe aussi. Les costumes, c'est Oscar Houtin qui a fait les costumes, qui danse aussi. Je danse et je porte le projet. Voilà. En fait, presque tout le monde a mis aussi une énorme énergie pour que ce projet se fasse. On a eu 4 semaines de travail. C'était pas du tout suffisant par rapport à notre aussi envie de déployer le projet sur des questions de « Ok, mais il y en a d'autres que nous qui parlent. C'est quoi nos ressources? Comment on les partage ?» Donc, on a un endroit de ressources où l'idée, c'était que ce projet-là soit un espace de ressources. Que si tu avais besoin d'une information hyper concrète dans ta ville, à qui tu peux parler, eh ben, qu'il y ait des associations de cette ville. Donc là, c'est à Angers. Là, il y a le planning familial qui est là avec 7 bénévoles. Ils sont là. C'est important pour elles. C'est une évidence aussi d'être sur d'autres genres de projets que les projets auxquels elles sont habituées. Et là, d'associer, bah, c'est quoi le pouvoir militant et le pouvoir artistique et comment on peut se co-soutenir. Et ça me fait, sans vouloir tout mélanger, mais voilà, où est-ce qu'on peut avoir des endroits de soutien? On partage nos ressources de lecture, donc ça a été soutenu aussi par Isabelle Gino et Ariana Ariano, qui fait aussi partie des danseurs. Et puis il y a le maquillage, qui est plutôt pour aussi et faire communauté, mais aussi se camoufler un petit peu, ou au contraire se donner à voir, ça, c'est très double, qui est à partir du dazzle, parce que moi j'ai trouvé ça complètement incroyable, ce travail de camouflage d'abord des bateaux militaires et aussi des caméras de surveillance, donc de pouvoir aussi dire quelque chose sans être reconnu. Et quand on parle des violences sexuelles et sexistes, on sait très bien que c'est pas que positif de dire qu'on en a subi. Donc comment on traite ce sujet-là aujourd'hui, de juste qu'est-ce que ça fait en fait de le dire. Et donc je me disais, c'est intéressant de peut-être pouvoir que nous on se donne à voir, on se vulnérabilise, mais aussi on se cache ou on se montre encore plus. Ça, c'est une autre stratégie.
Mémoire floue d'un nuage qui passe, j'écoute en moi le silence et les cris, mon corps s'érige et tout se déplace, prendre une main et relâcher la nuit, quand bien même ma mémoire est faillible, quand bien même elle prend la tangence, mon corps lui sait déjouer les cibles, je vous sens et la vie gagnante, nos forces se mêlent, elles se savent et se racontent, nous laisse prendre le temps, voilà nos feux de joie, jour joyeux, tracés qui guérissent, la confiance du temps, nos forces se mêlent, elles se savent et se racontent, nous laisse prendre le temps, voilà nos feux. Nous laisse prendre le temps, voir nos feux de
Je disais tout à l'heure qu'Outsider est un projet pour 9 interprètes et une DJ, mais j'aurais dû ajouter et une chorale de femmes. On vient d'entendre un extrait d'une séance de répétition que vous avez menée au mois de février en présence de la chorale Les Louises sans Michel Danger, je crois. Qu'est-ce que ce moment choral et collectif apporte à ce projet ?
Il y avait toute la question de la parole. Comment on en parle, en fait ? Et finalement, je pense qu'on est très longtemps. En tout cas, moi, je peux vraiment analyser ça, qu'il y a beaucoup, beaucoup de silence et que c'est très, très, très parfois difficile de juste pouvoir s'en parler à soi-même, d'en parler aux autres. C'est encore une autre étape qui est en train de pas mal bouger. Et donc, il y avait pour moi l'envie d'avoir des corps aussi qui peuvent pas dire, en fait. Et c'est ça qu'on traverse très régulièrement, c'est que ça sort pas. Et que petit à petit, ça puisse sortir et que j'avais envie que ça sorte en forme d'un chant et d'un chant qui puisse être partageable. Et ça, nous, on pouvait pas le porter seul en tant que 9 interprètes. Donc, je sais qu'il y a des chorales féministes dans beaucoup, beaucoup de villes françaises qui sont des mouvements aussi très précieux. Et donc, on a fait appel aux Louises sans Michel qui se sont hyper investies. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent, parce qu'elles étaient une petite cinquantaine. Mais c'est très, très beau d'avoir ces soulèvements, en fait, de voix et ces soulèvements de corps qui sont présents, tout simplement, et dans le faire et dans le partage de poésie, de chant. Et je crois que ça fait vraiment partie de l'écriture, en fait, du projet.
Pourquoi Outsider, que vous avez sous-titré « Manifeste dansé » ?
Bah, outsider, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que pour moi, cette notion de se sentir complètement outsider quand on a subi des violences, alors qu'en fait, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si c'est pas plutôt l'inverse, en fait. Si c'est pas les outsiders, les personnes qui n'en ont pas subi. Et que ça me pose vraiment question, d'un point de vue sociétal, je me dis. Manifeste dansé, parce que je pense que pour moi, vraiment, c'est un manifeste, ce projet, dans la construction, parce qu'il est assez hybride. Je le disais, c'est un accueil plutôt d'un espace de ressources. Donc, il y a tout le travail de la scénographie qui est fait par Alice Pandira, que j'avais plutôt invité pour faire les lumières, mais on a décidé de faire ce projet en plein après-midi. Donc, il fait jour, et donc les lumières n'étaient pas utiles. Je sais très bien qu'elle est dessinatrice, parce que j'ai déjà travaillé avec elle, et qu'elle est beaucoup sur des figures hybrides, et que quand elle m'a proposé d'habiller ces Samia pour avoir un espace un peu cocon, qui soit accueillant pour aussi que les corps puissent se déposer, qu'ils aient envie juste de se poser, et qu'elle a voulu travailler sur le feutre et qu'elle parlait de fresques qui pourraient se découper, évidemment ça s'est fait tout seul. Mais je sais que l'ensemble de ce projet-là, avec une présence d'association, une présence de chorale, de ressources, et en même temps il y a du chant, il y a cette espèce de moment performé, puis après on essaye de soulever l'ensemble des corps à une forme hybride. Donc il y a quelque chose pour moi qui parle de l'ensemble de la complexité de la mise en création dont on parlait. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose d'assez complet, où je sens qu'il y a aussi l'ensemble des questions et des acteurs autour de ces questions qui sont présents, en fait. Il en manquera toujours. Et oui, je crois que cette place de la danse, là, pour moi, c'est quelque chose de manifeste.
Cet épisode choral n'aura pas pu exister sans la précieuse aide de Stéphanie Gressin et Isabelle Ginot. Merci à elles. Outsider se donnera à Nantes en janvier 2025. Il y a de fortes chances pour le voir à Paris la saison prochaine. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.